Alors, je voudrais remercier Liv Po pour cette invitation qui me permet de visiter. C'est la première fois que je visite un autre pays arabe que le Maroc, donc c'est le Liban. J'avais une connaissance plutôt livresque et là vous me permettez de visiter le Liban et de connaître les Libanais chez eux. Voilà. Donc merci infiniment. Et je voudrais aussi dire ma dette envers Viviane Comero, qui nous a initiés à la lecture des textes classiques. Alors, d'une manière sympathisante. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'émerveille devant un extrait de la Sira. Et alors j'ai passé, je crois que j'ai battu les records parce que je dois être le plus vieux agrégé d'arabe. Mais j'ai eu aussi mon permis de conduire à 55 ans, donc. Et pourquoi je parle d'agrégation? Parce qu'au programme, il y avait la figure d'Ibn Abbas. Dans Tabaqat ibn Sa'd, dans Siyar a'lam Nubala et dans d'autres textes, Ousdraba, Ibn Abdelbar. Et j'avoue que j'ai découvert auprès de Viviane Comero une nouvelle façon de lire les textes. Et ça m'a donné un peu envie de travailler sur les récits de guerre. Elle a bien voulu diriger donc mes recherches, cette thèse. Alors, les récits de guerre, il y a quelque chose de paradoxal concernant les récits de guerre. Quand on ouvre un livre d'histoire, on ne parle que de guerre. Et pourtant, les récits de guerre n'ont fait l'objet d'aucune étude sérieuse du point de vue narratif ou du point de vue littéraire, ou même du point de vue militaire, sauf quelques exceptions, mais disons que c'est aussi ce manque qui m'a poussé à travailler là-dessus. Alors, bien que je sois vieux, donc je suis toujours jeune, et comme tous les jeunes, j'ai certains défauts, c'est qu'au début, je voulais faire une thèse qui englobe. Alors, les marazis, Hurub al-Ridda, donc les guerres d'apostasie, al-Futuhat, Hurub al-Fitna, et alors peu à peu j'étais submergé par le corpus, l'immensité du corpus. Et de proche en proche, donc en révisant mon projet à la baisse, donc j'en suis arrivé à ne m'intéresser qu'aux marazis, et même les marazis, rien que la bataille de Badr pourrait faire l'objet de plusieurs centaines de pages, hein, tellement c'est riche. Donc, ce que je vous propose, je vais essayer d'être bref, mais surtout poser des questions. C'est que je vous propose de parler de deux récits de la bataille de Badr, un récit d'Ibn Hisham et le récit de l'Waqidi. Alors, Ibn Hisham et Ibn Ishaq, parce que bon, je ne vais pas répéter ce qui a été très bien dit ce matin par professeur Jadla. Quand je parle d'Ibn Hisham, donc il a fait une édition élaguée, expurgée d'Ibn Ishaq, il a retiré des choses, il a sans doute réorganisé les matériaux. L'édition partielle du manuscrit de Fès ne comprend aucun récit des Marazis, puisque c'est surtout les débuts. Donc ça ne permet pas de voir les travaux de modification, enfin les modifications opérées par Ibn Hisham. Donc Ce que je propose, c'est de voir un peu comment Ibn Hisham raconte la bataille de Badr et un contemporain, un Waqidi. Alors, contemporain, mais il faut toujours garder à l'esprit le fait qu'Ibn Hisham nous fournit une édition d'Ibn Ishaq. Donc, on pourrait penser qu'il y a à peu près 50 ans de différence entre les deux versions. À la louche, hein, on ne va pas. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous donner un pro. Pour vous rafraîchir la mémoire, parce que je pense que tout le monde connaît la bataille de Badr, un résumé. Puis, je m'intéresserai aux grandes articulations narratives chez Ibn Hisham. Je vous n'infligerai pas les grandes articulations narratives chez Waqidi, mais je vous montrerai un peu en quoi Waqidi se distingue d'Ibn Hisham. Et en m'attardant sur les motifs suivants. Le songe de Atika, la tante du prophète, qui ouvre quasiment le récit de la bataille de Badr. De manière corollaire, la manière dont Waqidi procède pour marquer le caractère inéluctable du cours des événements. On a la fausse impression, quand on lit ces textes, que ces auteurs qu'on qualifie bien à tort de compilateurs procèdent à un agencement de matériaux transmis sans intervenir là-dessus. Or, chez Waqidi, indéniablement, il y a un travail d'écriture très minutieux qui n'est pas perceptible à la première lecture. D'ailleurs, rien n'est perceptible à la première lecture, surtout concernant ces textes, qui posent d'innombrables problèmes de compréhension, quelquefois même de lecture. Nous n'avons pas toujours des éditions critiques de grande qualité. Bon, une chance. Waqidi a fait l'objet d'une, en tout cas l'ouvrage, Al-Maghazi a fait l'objet d'une excellente édition de Jones, ouais, Marcin Jones. Et donc le troisième motif, je vous parlerai du commandement. Comment Waqidi traite du commandement militaire. On ne fait pas de guerre sans commandement. Et ce n'est pas très marqué chez Ibn Hisham. Waqidi, entre parenthèses, s'intéresse au Marazi beaucoup, de manière particulière, bien que de temps en temps il fasse mention de faits qui n'ont pas un lien immédiat avec la guerre. Et alors, si j'ai un peu de temps, je vous parlerai de quelques scènes de bataille. Parce que bon, c'est le plus important, finalement, dans une guerre. Il arrive qu'on fasse une guerre sans bataille, mais malheureusement, jusqu'à présent, on ne peut pas en faire, on peut pas faire l'économie. Donc, je vous propose un résumé. Et déjà, dans le résumé, on est embêté. De quoi vais-je vous parler quand je fais un résumé? À partir de quoi? Parce que déjà, je vais faire une œuvre d'historien. Je vais privilégier peut-être une version, dépend d'une autre. Donc, je fais quelque chose de plus simple. J'ai pris l'article de l'Encyclopédie 19 que j'ai modifié un petit peu. Il est fait par Montgomery Watt, mais je pense qu'il a plutôt travaillé sur la version d'Ibn Hisham. Donc, une riche caravane conduite par Abu Sufyan, Ibn Harb, du clan des Oumayyas, revient de Syrie à La Mecque. Le prophète l'apprend et réunit une troupe d'un peu plus de 300 hommes. Et il se rend vers Badr afin de s'emparer de la caravane. Alors Abou Soufiane a vendu le projet du prophète et envoie un messager à la Mecque demandant des renforts. Les préparatifs des Mécois durent 2 ou 3 jours et finissent par mettre sur pied une troupe de 950 hommes. Et malgré les signes négatifs divinatoires, ils finissent par partir à la rencontre de la caravane. En cours de route, ils reçoivent un message d'Abou Soufiane dans lequel il leur dit que la caravane est hors de danger et qu'ils doivent retourner à la Mecque. Mais Abou Jahl, du clan de Makhzoum, malgré la désapprobation de personnages mécois importants qui faisaient partie de la troupe, et la défection de deux contingents. Le contingent des clans de Zuhra et de Adi parvient à décider les autres clans à continuer la marche sur Badr afin d'y faire une démonstration de force des Quraysh destinée à impressionner les autres tribus arabes. Alors, le prophète était sorti pour attaquer la caravane. Mais il apprend en cours de route que Abou Jahl est à la tête d'une expédition. Les hommes du prophète font prisonniers des porteurs d'eau, mécois, près des puits, puisqu'il y en avait plusieurs à Badr. Et le campement des mécois était en fait caché par une colline. Les porteurs d'eau étant venus pour chercher de l'eau, donc ils sont faits prisonniers. Il y a plusieurs versions, une version chez Tabari. C'est une scène très intéressante, hein, du point de vue narratif, très, très intéressante. Mais je ne vais pas m'y attarder. Alors, le prophète est à la tête d'une troupe où il y a 80 muhajiroun, le reste c'est des ansars. Il avait un traité d'alliance avec les Ansars, dans Bay'at al-Aqaba, où les Ansars lui assurent une protection fid-dar, littéralement à domicile. C'est-à-dire, tant qu'il est à Yathrib, Médine, donc il est assuré de la protection des Ansars. Mais en dehors, il se débrouille. Alors là, il voulait s'assurer de leur soutien. Et c'est un moment charnière dans le récit. Il y a un très célèbre discours de Saad bin Mu'adh qui exprime une adhésion inconditionnelle au prophète. Et finalement, la bataille a lieu. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur la bataille? Je vous le dirai plus tard. Mais en tout cas, c'est la déroute dans la troupe mécoise. Il y a près de 70 tués, parmi lesquels Abou Jahl, et près de 70 prisonniers libérés plus tard contre des rançons considérables. Dans le camp musulman, il y a une quinzaine de tués. Alors, sur la composition des récits, vous avez parlé ce matin de la composition. On a affaire, et chez Hicham ibn Ishaq, et chez Waqidi, à des récits combinés. Ibn Ishaq utilise la formule suivante. Après énumération des transmetteurs, dit Kullun qad hadathani ba'da hadha al-hadith, fajtama'a hadithuhum fima suqtu. Donc il procède un peu à une fonte de tous les matériaux qu'il puise dans différentes transmissions. Alors, Al-Waqidi utilise une formule similaire en début de son ouvrage et quelquefois au début du récit d'une ghazwa ou d'une seriya. Alors, après énumération aussi des noms des transmetteurs, il dit Kullun qad haddathani min hadha bi ta'ifatin wa ba'duhum aw'a li hadithi min ba'd. وغيرهم قد حدثني أيضا، فكتبت كل الذي حدثوني. C'est une formule assez, elle est assez elliptique. Alors, فكل قد حدثني من هذا بطائفة، وبعضهم أوعى لحديثه من بعض، وخيرهم قد حدثني أيضا، فكتبت كل الذي حدثوني. C'est-à-dire qu'il y a des sources qu'il ne mentionne pas parmi la liste des transmetteurs. Il introduit certainement une hiérarchie par la formule Bardoum Awa li hadithi min Bard. Alors, pas Awa qui comprend mieux, mais je pense que c'est des versions plus fournies de l'événement. Donc sur la structure générale. Alors, mais l'Aqidah a ceci de particulier que, outre le récit combiné, de temps en temps, concernant un point ou une identité, va rapporter un récit avec une chaîne de transmission, de transmetteurs en bonne et due forme, pas selon les critères des traditionnistes, mais ben en tout cas, c'est une liste qui a l'air de tenir la route, parce que de toute façon, on est dans un domaine qui est hors du hadith, même si concernant les marazis. Il ne faut surtout pas négliger le corpus du hadith, qui est très important, mais qui est guidé par d'autres soucis, chez Bukhari ou chez quelqu'un même très, très important qu'on commence à découvrir, As-Sanani. Mais il fait état de ce qu'il a sous la main. Alors il peut y avoir des ellipses, des lacunes, mais c'est pas ce qui l'intéresse. On lui a transmis un certain nombre de akhbar, il en fait état, un point c'est tout. Donc l'événement peut avoir l'air décousu. Mais donc ça, pour le moment, je ne m'y intéresse pas. Sur quantitativement, entre les deux récits, le récit de Waqidi est beaucoup plus ample. Que le récit d'Ibn Hisham. En comptant le nombre de signes, c'est à peu près le double, hein, sur les fichiers informatiques, c'est un peu le double. Sachant que de récit, je le dis tout de suite parce que je risque de ne pas avoir le temps de le dire ou de l'oublier, c'est que ce sont des récits où on trouve quelque chose de très intéressant historiquement. On trouve des listes. Des listes des participants, des listes de morts, des listes des montagnes qui ont pourvu à la nourriture, les listes de prisonniers. Et quelquefois, ça reprend des détails, ça modifie même quelquefois, ce n'est pas en concordance avec ce qui a été dit dans le corps du récit. Alors, quantitativement, du point de vue générique, alors, ces récits sont composés comment? Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Bon, on y trouve de tout. On y trouve de la poésie. Il ne suffit pas de dire qu'on y trouve de la poésie. Mais à quel moment la poésie intervient dans un récit? Ça, c'est le plus. Est-ce que c'est dans des moments charnières? Alors, pour le peu que j'ai vu, parce que c'est tellement, tellement riche. Dans ces récits, il y a des digressions. Et quelquefois, on va rappeler un fait antérieur. En rappelant ce fait antérieur, bon, les Arabes ne peuvent pas s'empêcher de faire des citations poétiques. Donc, on fait deux, trois citations poétiques. Une citation, on appelle une autre. On s'éloigne quelquefois du récit. Mais on y revient vite. Ça, c'est. Deuxième remarque sur la poésie, il y a plus de poésie chez Ibn Hisham, Ibn Ishaq, que chez Al-Waqidi. Et souvent, chez Ibn Hisham, c'est à la fin du récit qu'il énumère tous les vers qui ont été dits à l'occasion de la bataille. Alors, on a reproché autrefois à Ibn Sa'd de citer des poésies apocryphes qu'il ne s'y connaissait pas déjà. Alors, Ibn Ishaq, ce matin, vous avez parlé à M. Jedla des modifications qu'il introduit. Quelquefois, il dit qu'il ne rapporte pas certains vers parce qu'ils sont obscènes. Donc il procède à une censure, autrement dit, expurge un peu le texte, mais il y a un corpus poétique très intéressant dans la Sierra. Alors, on y trouve des dialogues, bon, c'est une banalité, il faudrait voir ces dialogues, ce qu'ils ont de particulier. Mais c'est souvent un échange entre deux personnages et un troisième qui intervient, toujours, intervient. Pour prendre parti. Alors, c'est soit le prophète qui intervient dans la conversation de deux personnes, soit c'est. Alors, Omar ibn Khattab, ça c'est. Là, je vous lis, parce que vous avez des étudiants, pourraient leur suggérer des sujets de thèse, où il y a peut-être même de jeunes étudiants. Ici, c'est de voir. Des figures de compagnons du prophète dans la Sirah. Omar ibn Khattab a des traits caractéristiques, ça c'est, qui ressortent souvent dans un dialogue. Et quand il intervient, c'est toujours pour recommander la manière forte, et toujours pour tuer quelqu'un. Quand il est toujours prêt à dégainer. Ça c'est. J'aurais fait un. Voilà. Alors, il y a des discours. Donc, tout à l'heure, je disais qu'on ne faisait pas une guerre sans commandement, mais on ne fait pas une guerre sans discours. On n'envoie pas des soldats comme ça se battre sans leur faire des discours. Chez Waqidi, à la louche, il y a beaucoup plus de discours. Chaque modification, chaque fois qu'un élément nouveau intervient dans le récit, est souvent ponctué par un discours. C'est vraiment les. Alors, discours ou invocation du prophète. Toute cette marche de la troupe musulmane vers Badr est ponctuée d'invocations. À la sortie de Médine, bon, on a une troupe sans monture. Apparemment, c'est des gens pauvres qui se sont joints à la troupe du prophète. Le prophète invoque Dieu pour les rendre riches. Et ainsi de suite, jusqu'au combat. Ça, c'est. Et alors, dans mon ambition de chercheur, je voulais aussi parler des Ayyam al-Arab. Chercher un trait caractéristique, un trait générique des Ayyam al-Arab, bon, je ne l'ai pas trouvé, hein, je vous le dis tout de suite, mais il y a un air de famille, c'est-à-dire qu'on reconnaît tout de suite, peut-être thématique, parce qu'il y a toujours des questions de vendetta, de vengeance, et dans la Sira, la Sira regorge de récits des Ayyam al-Arab. Bon, Badr, par exemple, il y en a un dont je vais peut-être parler. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon iPhone parce que je parle, je ne sais pas le temps qui passe. Combien? 5 minutes. D'accord. Là, c'est. Alors, si vous voulez, bon, je vous ai fait un récit qu'on retrouve à peu près les grands événements qu'on trouve chez Ibn Hisham. Alors, les deux traits distinctifs chez Waqidi qui vont vraiment structurer le récit, la marche du destin. Le récit de Badr comporte plusieurs scènes qui sont des temps forts, qui scandent le déroulement et qui marquent le caractère inéluctable de l'événement. Le destin est en marche, rien ne saurait l'arrêter. Alors, au moment où le messager de Abou Soufiane arrive à Badr, on était en train de se demander si le songe de Atika, la tante du prophète, était véridique ou pas. parce qu'elle avait fait un songe que je vais vous lire rapidement, mais c'est très important. Alors, vous préférez que je vous lise l'arabe ou je vous lise la traduction, puisque en arabe, je pense qu'en arabe, c'est plus. Voilà, mais je peux. Je veux dire. Alors, قالت رأيت راكبا أقبل على بعير حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته يا آل غضر انفروا إلى مصارعكم في 30 فصرخ بها 3 مرات فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه إذ مثل به بعيره على ظهر الكعبة فصرخ بمثلها 3 ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس ثم صرخ بمثلها 3 ثم أخذ صخرة من أبي قبيس فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار من دور مكة إلا دخلته منها فلذة فكان عمرو بن العاص يحدث فيقول لقد رأيت كل هذا ولقد رأيت في دارنا فلقة من الصخرة التي انفلقت من أبي قبيس فقد كان ذلك عبرة ولكن الله لم يرد أن نسلم يومئذ لكنه أخر إسلامنا إلى ما أراد. Alors, il y a une lutte entre le clan de Makhzoum et le clan de Abu Talib. Ibn Jahl va s'employer à dire bon. Les Banu Abd Muttalib ne sont pas contents d'avoir un prophète, maintenant ils ont une prophétesse. Et il va dire, bah, elle ment. Mais l'arrivée du messager d'Abu Soufyan va confirmer le songe de Atika. Et ce messager va procéder à un ensemble de démonstrations. Il va blesser son chameau, il va monter le chameau à l'envers, et il va reprendre même, et on trouve des expressions qu'on trouve dans le récit du songe. Ça, c'est finalement, il a fallu courir au secours de la caravane. Abu Jahl englobe dans son hostilité le clan des Banu Abd Muttalib et il prend en charge la réfutation de la prédiction contenue dans le songe de Atika. Et il va déployer à cet effet une extraordinaire énergie. D'abord, avant l'arrivée de Damdam ibn Amr, le messager d'Abu Soufyan, et ensuite tout au long de la marche des Mekwas sur Badr. Al-Waqidi en rend compte minutieusement. Les prérogatives des Banu Hashim contestées par Abu Jahl sont les offices de la Siqaya, Rifada qu'on connaît. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que Abu Jahl met son propre camp au même rang que celui des Banu Hashim. Il compare les deux camps à des chevaux de course en compétition. Et donc il est inquiet de la suprématie que pourrait acquérir le clan des Banu Hashim. Donc il n'aura plus pour arme que la force persuasive de sa parole, puisqu'il avait démenti, mais le messager est là. Et on voit dans le cheminement de la troupe vers Badr, j'ai compté 82 occurrences du nom d'Abu Jahl. Il jouit d'une ubiquité extraordinaire, on pourrait dire, il me fait penser à Sarkozy, il est partout. Dès qu'il y a une velléité de retour, il surgit pour la réfuter. Et le parcours de la troupe est jalonné par le récit d'autres songes, de mauvais augures. Et il parvient toujours à convaincre la troupe continuer jusqu'au bout. Et alors, il y a un problème de commandement dans la troupe mécoise, c'est qu'on a Utba ibn Abi Rabi'a et Abu Jahl, qui sont les deux personnages les plus cités. Utba ibn Abi Rabi'a était d'avis de rebrousser chemin. Il y avait un motif, une histoire de prix de sang d'un certain Amr al-Hadrami qui a été tué dans une série qui avait précédé Badr. Il prend en charge, il est prêt à prendre en charge en fait le prix du sang, mais Abu Jahl le traite de lâcheté. Et là-dessus, il ne peut plus faire machine arrière. Donc, il est premier. Donc, on a le récit des premiers combats singuliers auxquels participent Utba ibn Abi Rabi'a, son frère, Shayba, et son fils. Et on a une description. Alors là, c'est sur les scènes de bataille. On a une description des premiers combats singuliers. Alors, qui sont très, très lapidaires, et avec une différence sur l'identité des combattants qui ont relevé le défi. Des combattants qui ont relevé le défi. Chez Ibn Hisham, si vous voulez, à la place de Utba ibn Abi Rabi'a, il met Shayba, son frère, qui va lutter contre Hamza, l'oncle du prophète. Chez Waqidi, un peu plus de détails sur les combats. Alors, ça, c'est aussi un motif littéraire. Est-ce que il y a un modèle de descriptif du combat dans les marazis qui va survivre plus tard ou pas. Mais en général, c'est l'affaire de 3-4 phrases. Alors, ça peut dénoter la rapidité avec laquelle les combats se passaient, mais on s'attardait très peu là-dessus. Il y a deux autres scènes. C'est la mort d'Abou Jahl qui prend quasiment 3 pages dans Waqidi, mais qui est donnée après la défaite. Le combat s'engage, le prophète implore Dieu, prononce une formule d'imprécation, quasiment dans les deux récits, et c'est Al-Hazim, Fakanat Al-Hazim. Et c'est après coup que l'on raconte des scènes de bataille. Alors pour être bref, bon, 1 minute pour conclure. En conclusion, pour être bref, en conclusion. Chez Waqidi, pas uniquement dans Badr, on a affaire à une écriture vraiment littéraire. Ça, c'est indéniable, qui me semble n'a pas encore été étudié, qui mérite une approche un peu plus minutieuse, plus attentive aux motifs, aux ce que nos collègues ont évoqué. En début de matinée, il y a des topos. Alors, le tout de savoir comment on raconte les guerres par la suite. Est-ce que Badr, pourquoi j'ai pris Badr? Ce n'est pas par hasard, parce que c'est la première bataille importante. Est-ce qu'il y a un modèle littéraire qui a survécu après dans le récit des Marazis? C'est ce que j'essaie un petit peu de faire. Et je vous remercie pour votre patience.